knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir un monsieur qui nous prépare une révolution. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il la prépare, même un peu plus. C'est une révolution dans le monde médical, c'est une révolution aussi dans le monde économique, c'est une révolution dans le monde de l'innovation. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je suis un peu impressionné de le recevoir. Madame, mesdemoiselles, messieurs, le traitement du cancer va évoluer, va continuer d'évoluer. Il va continuer d'évoluer fortement sur Nancy, un peu grâce à lui, Gilles Karcher.
So good, so good, I got you.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors rapprochez-vous du micro. Je vous ai pas regardé en présentant, en faisant ma petite introduction parce que je pense que vous avez pas trop aimé. Vous êtes plutôt un mec hyper modeste. Pourtant, ce que j'ai dit, je crois pas que ça soit complètement faux. Depuis 20 ans, vous préparez quelque chose qui va se traduire concrètement par de la vente de nouveaux médicaments en 2024. Racontez-nous un tout petit peu cette histoire-là. C'est quoi ces médicaments? Ils vont traiter quoi? Et comment ils vont le traiter? Et d'où ça vient?
Donc ça vient de l'évolution de ma discipline, qui est la médecine nucléaire, qui historiquement était une discipline d'imagerie, les scintigraphies, les PET scans, et qui depuis une petite dizaine d'années a fortement évolué avec l'apparition de produits destinés au traitement des cancers.
Alors l'imagerie, ça permet de faire une photo de la maladie.
Exactement.
De voir où elle se trouve.
Donc on fait ce qu'on appelle le diagnostic, le bilan d'extension, savoir si c'est des tumeurs localisées, diffuses. Ça permet d'avoir une estimation de ce qu'on appelle la masse tumorale globale, hein, qui est un bon indice de la sévérité de la maladie. Et ça permet de vérifier que le produit qu'on a l'intention d'injecter pour faire de la thérapie se fixe bien là où doit se fixer.
Et c'est ça un peu l'évolution, c'est vers ce traitement de la maladie qu'on a cette révolution qui se prépare.
Oui, parce qu'on a une... Ce qui est magique dans cette technique, c'est que c'est l'imagerie qui pilote la thérapie. C'est-à-dire qu'en clair, on utilise les mêmes produits qui sont chargés de se fixer sur les tumeurs à traiter. C'est les mêmes produits qu'on utilise pour l'imagerie et pour la thérapie. Donc on a un moyen direct de vérifier que le médicament va bien se fixer au bon endroit par l'imagerie. Et l'imagerie permet aussi d'adapter les doses de produits qu'on injecte et donc de limiter les effets secondaires et d'améliorer l'efficacité. Et ça permet de surveiller les patients et d'adapter les modalités de traitement dans les mois qui suivent.
Donc ce petit boulot-là, vous le faites au CHRU de Nancy?
Absolument. Donc le CHRU de Nancy a historiquement un service de médecine nucléaire qui a toujours été très en avance, à la fois en taille, c'est actuellement le plus gros service de médecine nucléaire de France.
Ah oui.
Et dans la qualité...
Et vous en êtes le patron.
J'en étais le patron. Maintenant, j'ai fait valoir les droits à la retraite, mais c'est une retraite qui reste très active. Et ce service a toujours été très bien équipé sur le plan technique. On a été les premiers à avoir des PET scans dans les années 2001-2002. Premier à avoir des gamma caméras couplées au scanner. Et donc, on était bien positionnés pour, on va dire, accompagner cette évolution de l'imagerie vers la thérapie.
Et aujourd'hui, alors, la révolution qui se prépare avec ces médicaments Made in Nancy, ça vient d'où? Ça prépare quoi? Et en quoi ça va nous donner une longueur d'avance, à la fois d'un point de vue sanitaire, médical, de soins, et puis aussi d'innovation, d'économie pour le territoire?
Alors c'est une histoire un peu longue.
On va prendre le temps de la raconter. Parce que Gilles Karcher ne la raconte pas souvent.
Donc l'histoire démarre dans les années 2000-2001, c'est le développement du PET scan en France. Donc Nancy a été un des premiers CHU à avoir un PET scan. Et à l'époque, notamment grâce à l'action de nos politiques, hein, qui nous ont toujours accompagnés sur ce sujet, à l'époque c'était Gérard Longuet qui était président de la région, il a été fait en sorte que un cyclotron pour produire les produits radioactifs dont on a besoin pour le PET scan soit installé sur le site du CHU de Nancy. Donc là on est en 2001, avec une activité médicale qui démarre très fortement, à la satisfaction de tout le monde. En 2004, on s'est posé la question de savoir comment capitaliser sur la chance qu'on avait d'avoir ces équipements localement. Et j'ai fait une présentation, dont je me souviens encore, devant un aéropage de décideurs. On avait les grands décideurs de nos collectivités territoriales à l'époque. Et là, on a réussi à les convaincre de créer une structure ad hoc pour développer la recherche, l'innovation autour de la médecine nucléaire, mais sur un mode développement économique.
Préparant un tout petit peu cette émission, on m'a dit qu'Archer, il a quand même réussi à réunir le CHRU, l'Université de Lorraine, les collectivités territoriales autour de son projet. Ce qui en fait... Un vrai exploit. Alors, j'ai un peu le sentiment de vous passer la pommade, professeur Kircher, pardon, mais sans cette réunion des forces, c'était pas possible.
Non, parce que on est dans une discipline qui a un potentiel énorme, mais qui nécessite aussi des gros moyens techniques. Donc, fallait être en capacité, si vous voulez faire quelque chose d'efficace, d'avoir un budget initial de départ qui était suffisamment et pour le chiffre à l'époque qu'on manipulait, c'était 4,5 millions d'euros. Donc, pour faire de la recherche de façon efficace, il nous fallait 4,5 millions d'euros pour pouvoir développer des nouveaux radiotraceurs, faire de l'évaluation préclinique et faire de la recherche clinique.
Et ça, c'était, juste pour qu'on se rende compte, c'était il y a 20 ans.
Oui, c'était le 13 juillet 2004.
Vous pensiez qu'il fallait 20 ans pour arriver
là ? Non. Mais alors, donc c'était une décision, c'était une réunion, enfin magique, avec autour de la table des décideurs qui ont.
Allez, donnez les noms, allez-y.
À l'époque, c'était simple. On avait André Rossino qui représentait la communauté urbaine de Grand Nancy de l'époque, qui était le président du conseil d'administration du CHU. Ah,
en plus.
On avait Jean-Pierre Masseret qui représentait la région. Il y avait Jean-Yves Ledéo qui représentait, qui était passé du conseil général à vice-président de la région, et le directeur général du CHU, le directeur général de l'ARS.
Tout ça dans votre sous-sol
au voilà, CHRU. dans la salle de réunion du service, au deuxième sous-sol du CHU de Brunbois. Je leur ai présenté le projet, c'était un 13 juillet à 16h.
Ça fait partie de 2004. Votre date importante dans votre
absolument.
Vie.
Absolument. Et à la fin de mon exposé, mon PowerPoint, André Rossino prend la parole. Et il dit cette phrase: de ce que nous a dit M. Kircher, je retiens deux choses. Un, faut le faire. Deux, faut le faire vite. Ça commençait bien. Il était à côté de Masseret. Il est à côté du président Masseret. Il lui dit: voilà ce que peut faire en termes budgétaires la communauté urbaine. Qu'est-ce que peut faire la région? Parfait. Le Conseil général, vous pouvez suivre. Le Conseil général a suivi. Et on a réussi en 5 minutes d'horloge à convaincre les trois collectivités, les présidents des trois collectivités territoriales à mettre ce
4,5 millions d'euros.
4 millions et demi. Et alors, pour la petite histoire, c'est pour ça que je me souviens de la date, on était le 13 juillet, André Rossino nous dit: ben écoutez, c'est parfait, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter parce que j'ai les cérémonies militaires à présider, mais monsieur Kircher, monsieur Boulanger, qui était le directeur de la recherche à l'époque, et madame Simonet, vous faites un petit groupe de travail et vous mettez ce beau projet sur les rails.
Vous avez dû vous faire détester par les chefs de service des collectivités territoriales, parce que sortir ces montants d'argent, c'est énorme, c'est énorme.
Alors effectivement, le service après-vente a été un peu plus compliqué sur le thème, mais nos présidents...
On les aime.
Ils ont décidé, donc on va faire en sorte, mais les budgets, on les a pas.
Ouais.
Donc ça, et en tout cas, on les a sûrement pas sur des lignes
C'est ça qui est intéressant.
Ouais. Ouais. En revanche, ces montants-là, on pourrait les mobiliser sur des lignes développement économique. Alors, 2004, la Lorraine est quand même a perdu la sidérurgie, perd les militaires, il y a des gros problématiques d'emploi. Donc, nos collectivités sont très soucieuses de développement économique et création d'emplois. Et ça a mûri pendant 3 ans pour aboutir en 2007 à la création, et c'est extrêmement important puisque c'est ça qui explique tout le reste. On met les subventions comme prévu, mais on crée un groupement d'intérêt économique dans lequel on retrouvera le CHU, l'université et une boîte privée qu'on crée ad hoc pour être le valorisateur de l'ensemble. Et l'objectif, c'est de faire une structure qui répond à ses objectifs de recherche et qui répond aussi à des objectifs économiques avec de la création d'emplois et du développement industriel. Donc c'est l'ADN, en quelque sorte, de Nancyclotep. La mission, c'était vous faites de la recherche et du développement économique.
Donc Nancyclotep, c'est cette structure que vous avez, ce GIE que vous avez mis, qui rassemblait tous ces acteurs que vous venez de citer autour de ce projet. Et derrière, une autre structure pour le développement éco aussi après ?
Oui, donc c'est une société qui a été créée de novo, hein, qu'on a appelée Posifit, dont la mission était de faire le développement économique. Alors pendant des années, cette structure est restée, on va dire, avec une activité propre relativement modeste. On faisait quelques contrats industriels, mais c'était modeste. Mais là, ce qui change maintenant, c'est que cette structure est devenue un établissement pharmaceutique, avec autorisé par les autorités sanitaires, a un premier laboratoire qui est en exploitation et en train de finaliser son deuxième laboratoire dans les sous-sols du CHU de Nancy.
Alors vous pouvez nous faire un petit peu justement la pédagogie de ce lien vers en quoi la recherche, l'innovation que vous avez développée pour le soin va faire rayonner un peu de Deveco autour et du territoire, bien sûr.
Alors dans cette discipline, la radiothérapie, ce qu'on appelle la radiothérapie interne vectorisée, donc c'est le traitement des cancers par des molécules radioactives qu'on injecte aux patients, est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'on a dans notre environnement au niveau mondial, on a actuellement une trentaine de molécules qui sont en essai clinique précoce. Pour faire ces essais cliniques, il faut bien sûr disposer de centres hospitaliers adaptés. Le CHU de Nancy en est un, mais il y en a d'autres. Mais il faut aussi, et c'est la spécificité du domaine, régler le problème de la logistique, de la production et de la distribution des produits radioactifs qui vont avec. Les produits radioactifs sont des produits radioactifs à vie relativement courte. Pour le diagnostic, c'est quelques heures. Pour la thérapie, c'est quelques jours. Donc, c'est des produits qui ne se stockent pas, qui doivent être produits de façon loco-régionale. Et donc, la vraie difficulté pour faire avancer cette recherche, c'est qu'il faut résoudre tous les points bloquants, la production des radiopharmaceutiques étant un point bloquant. Donc, conformément à la mission Nancyclotep Posifit, on s'est organisé pour que Nancyclotep Posifit et le CHU de Nancy deviennent un centre de référence pour le traitement avec ces nouvelles modalités thérapeutiques, mais en réglant également les problèmes de fabrication et de distribution de médicaments radiopharmaceutiques. Avec l'étape qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est production loco-régionale et des ambitions qui sont à la production à visée européenne.
Voilà, un peu d'ambition, un peu d'énergie, un peu de passion, et ça se retrouve dans votre choix musical. Je vous propose une petite pause pour qu'on puisse comprendre un peu tout ce que vous venez de raconter.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a
a longtemps sur des guitares. Des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais
pardon, pardon Gilles, mais il faut laisser la parole à Gilles Karcher.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Oui Gilles, alors là je ne m'entends pas, mais ça doit peut-être, tout va bien. Gilles, on vient de voir un projet qui a une ambition, alors européenne et un peu mondiale quand même, enfin, ça caresse un petit peu le...
Ouais, mondial dans le sens où... Probablement les clients et les laboratoires qui développent ces produits, eux, viennent du monde. Hein. Mmh. États-Unis, Canada, Australie, Asie.
Ouais. Et puis, Gilles Karcher, il avance. Et le but de l'émission, c'est de partager un peu ses ondes positives, ce qui fait avancer. Il y a une grande modestie chez Karcher. C'est quoi qui compte le plus, alors ?
Ben, moi, je suis le produit de mon éducation. Hein. Mmh. Moi, j'ai une double...
Il vient d'où, Karcher ?
Alors, c'est un ancien pur jus. Moi, je suis né dans les banlieues ouvrières les faubourgs ouvriers de Nancy, hein, du côté de l'avenue du 20e Corps, la gare Saint-Georges, les grands moulins Villegrain, la Sanale. Et j'ai une double formation ingénieur. J'ai commencé par faire des études d'ingénieur. J'ai fait Supélec. Et en sortant de Supélec, j'ai décidé de refaire médecine. Voilà. Donc, j'ai cette double formation. Donc, je garde le côté ingénieur. Qui est. J'aime bien faire et j'aime bien structurer. Voilà. J'aime bien construire des outils. C'est un peu. Et là où je peux être utile, c'est de construire des outils et des structures qui seront utilisés avec beaucoup de talent par les autres.
Cette culture de construire des outils utilisés par les autres, justement, elle vient de l'école d'ingénieurs, de parents
Ah ben, dans la famille, moi je suis une famille de la petite bourgeoisie nancéenne, donc dans la famille il y avait des ingénieurs et des médecins, et des juristes. D'accord. Donc à titre personnel, comme j'étais pas très bon en sciences littéraires, j'étais plutôt un scientifique... Le choix, c'était ingénieur ou médecine. Pour des raisons purement de calendrier, j'ai commencé par faire les classes préparatoires après le bac, parce que la rentrée en classe préparatoire était un mois avant la rentrée en médecine. Et j'ai dit, je commence les classes préparatoires, et si c'est trop dur au bout d'un mois...
Je ferai médecine.
Ça n'a pas été trop dur au bout d'un mois. J'ai fait mes classes préparatoires, j'ai intégré Supélec, et pendant que j'étais en maths spé, j'ai fait le pari avec... des copains au pensionnat à Faber, de dire, après mon école d'ingénieur, je referai médecine. Et j'ai parié 6 caisses de champagne, brut millésimé, que je referai médecine après. Et ça, c'est probablement une décision sur une soirée entre étudiants, mais qui a probablement structuré ma vie.
Donc ça fait partie de la première date importante, c'était hiver 72.
Ouais.
Mais d'où elle vient cette décision? Parce que Ça ne sort pas comme ça, seulement en soirée des entre étudiants.
Ça revient au fait que quand on fait des sciences, on fait de la physique, on fait de la chimie, on a la prétention de vouloir comprendre l'univers. Sauf qu'on ne comprend rien de ce qu'est la vie. Donc il y a quand même une vraie question philosophique qui est derrière, c'est quoi la vie? Ça marche comment? Et ça m'énerve de ne pas comprendre. Donc, je fais médecine, enfin, je décide de faire médecine pour me donner les outils de comprendre ce que c'est que la vie. Alors, évidemment, c'est un objectif qui est...
Ça vient de loin, ça.
Qui vient de loin, qui est absolument pas atteint, puisque plus on avance, plus l'horizon recule. Donc, je pense que le fond, c'était de répondre à cette question-là, de pas accepter d'avoir tout un domaine aussi important que la vie et la médecine dans lequel on comprend rien.
D'où la méthode pour comprendre la vie.
C'est ça, exactement. Alors, j'ai pas compris, hein, mais je vais essayer.
On va écouter Jean-Gabin, là, bientôt. Mais en même temps, une phrase, tout de suite, quand on attaque Gilles Karcher, c'est « Les hommes heureux n'ont pas d'histoire ». Pourquoi cette phrase-là, vous êtes venu tout de suite, là, à
l'instant ? Mais non, parce que moi, je suis un enfant gâté de la vie. Et j'en suis très conscient. J'ai eu une enfance heureuse dans une famille aimante. J'ai été soutenu par mes parents. Ouais. J'étais un bon élève. J'ai fait des études sans trop me forcer. J'ai réussi à faire à trouver un boulot qui m'a passionné. Jamais une seule fois, je me suis levé le matin en disant j'ai pas envie d'aller au boulot. Jamais une seule fois. Donc ça, c'est quand même un privilège. Voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été épargné par des grands drames. Voilà. Donc, je considère que je suis un homme heureux et qu'il n'y a pas d'histoire dans le sens où je n'ai pas de tragédie à raconter.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment un homme heureux, en regardant le rétroviseur un petit peu de la vie quand même, hein, qui est du lycée Faber, en passant par le 20e corps, voilà. Un homme heureux de ce parcours-là.
Ah oui, oui j'ai jamais regretté une seule seconde ce choix-là. J'aurais pu, hein, j'aurais pu à tout moment, j'avais un double diplôme, j'aurais pu décider d'exercer mon métier d'ingénieur, j'aurais pu décider de faire de la médecine pure et dure, c'est-à-dire moins technique que la discipline que j'ai choisie. Mais là, avec cette discipline, j'avais la chance de pouvoir, j'allais dire, utiliser mes deux cultures.
Les deux cultures familiales, l'ingé et le médecin.
Absolument.
C'est quand même extraordinaire.
Et mes deux cultures d'études. Hein, c'est, ouais. C'est, voilà. Donc j'essaye de faire... Alors les mauvaises langues pourront dire que le fait d'avoir fait les deux, un, je suis un mauvais ingénieur et deux, je suis un mauvais médecin. Une vision plus positive, c'est de dire, j'ai réussi dans la discipline qui est la mienne, la médecine nucléaire, à conjuguer les deux cultures pour faire avancer les choses.
C'est vraiment ce que vous pensez, non ?
Oui.
Ouais. Troisième date importante, on va essayer de prendre un petit peu de temps. Tiens, Karcher se dévoile un tout petit peu, c'est pas tous les jours. Alors on était à l'hiver 72 et il y a l'été 77.
Alors l'été 77, je viens de terminer ma première année de médecine et je, comme tout le monde, je passe mes soirées sur la place Stanislas aux gens d'amour. Et là,
un vrai Nancéen.
Et là. Mon regard se porte sur une jeune femme, un peu prétentieuse, un peu pimbèche, une grande élancée comme ça, cheveux bouclés, jupe culotte bleu marine. Et celle-là, elle se prend pas pour rien. Et il se trouve que c'est Catherine, mon épouse, 45 ans de vie commune. Et donc là. Voilà, le premier regard, la première fois que je l'ai vu, c'était sur la terrasse de Jean Lamour, place Stanislas. Alors derrière, pour conclure avec elle, ça a été un peu compliqué. Ça m'a coûté une fortune en bouteille de gin au caveau du Jean Lamour, qui était gardé à l'époque par le gros Ben, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Donc ça a été... Il y a eu un travail de séduction. Après ça... Dans la vie que j'ai menée, la vie professionnelle que j'ai menée, qui était quand même assez consommatrice, j'avais le rôle de la famille et de l'épouse et des enfants qu'elle m'a fait et des petits-enfants que m'ont fait mes enfants. C'est absolument structurant.
Ah ben on va parler un petit peu quand même de ça, alors justement. Parce que le gros Karcher, qui est ingénieur et médecin, il vit avec un équilibre quand même ailleurs.
Bah oui, c'est la... L'équilibre, c'est la famille. Le pivot, le point stable, c'est la famille. Moi, j'ai passé...
On a sorti tellement d'émotions dans la première partie de l'émission à la création de l'encyclothèque, de la création de Posivit. Voilà. Et pourtant, l'équilibre, il vient d'ailleurs.
Ah bah oui. Enfin, on peut pas... On ne peut pas investir beaucoup professionnellement si, quelque part, on n'a pas, un point fixe. Et le point fixe, c'est la famille, très clairement.
La famille, elle a aidé aussi au développement de ce projet, au-delà de ce lieu d'apaisement et de construction. Est-ce qu'elle a aussi apporté...
Non, on ne mélangeait pas les gens.
Ouais,
on ne mélangeait pas les gens. La famille était un soutien. Mais voilà, on se mêlait pas de. D'abord parce que c'était des problématiques un peu compliquées, mais voilà, on mélangeait pas les gens.
Les enfants ont pris le relais un peu.
Pas du tout. J'ai une fille qui travaille dans le.
Pardon, je rentre dans la vie privée. C'est pas l'habitude de l'émission.
Qui travaille dans la structure sociale d'accompagnement à l'emploi, et j'ai un fils qui est un globe-trotteur. Donc il passe sa vie soit entre faire du consulting pour des grands cabinets de juristes internationaux, soit se balader à travers le monde. Et actuellement, il est en Thaïlande où il travaille dans un orphelinat au fin fond de la Thaïlande.
D'accord. Si on regarde un peu l'avenir maintenant, l'avenir de ce qui a été mis en place aujourd'hui professionnellement, ça se dirige vers quoi? Donc on a une commercialisation qui va commencer en 2024, mais un an c'est un peu court pour Karcher. C'est quoi la vision à plus long terme de ce qui est mis en place autour de l'imagerie nucléaire, mais aussi de ce qui est mis sur le territoire de Nancy? En quoi ça peut apporter à nourrir à long terme ce territoire-là, ses ingénieurs, ses habitants, et aussi ses patients?
Alors,
parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des patients.
L'objectif, il est à 5 ans, ne serait-ce qu'à cause de mon âge. Donc ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des objectifs beaucoup plus longs. L'objectif, c'est à 5 ans, faire une structure qui soit irréversible. Une des fragilités de ce système-là, c'est que ça dépendait beaucoup de moi, un peu trop. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens que cette structure devienne autonome. Donc, 2024, ouverture du laboratoire de production pour essais cliniques sur le site du CHU de Nancy. Dans 3 ans, ouverture quelque part dans le territoire, mais en dehors du CHU, d'une usine de production de médicaments radiopharmaceutiques à usage clinique et à destination de l'Europe. Donc c'est une structure qui va générer une quarantaine d'emplois. C'est, pour donner les ordres de grandeur, une usine de 2000 m² quelque part sur une friche industrielle dans notre environnement, et qui fera de Nancy un centre d'attraction pour les industriels mondiaux du domaine, où quand ils chercheront un site de production en Europe, le premier nom qui doit venir en tête, c'est Nancy.
Ça donne envie, ça, quand même. Aujourd'hui, vous sentez apaisé dans ce projet-là? C'est-à-dire que la perspective d'avenir, vous vous dites, tiens, on a quand même les partenaires autour de nous qui suivent, on le voyait au moment de la crise Covid, quand on disait, il faut rapatrier en France un peu l'industrie sanitaire parce qu'elle est partie à l'étranger. Est-ce que ce mouvement-là, vous le ressentez aujourd'hui avec un peu de confiance?
Alors, premièrement, on est très accompagnés par nos collectivités territoriales et notre environnement politique, quelles que soient les évolutions depuis toujours. On est dans un sujet qui intéresse le monde, c'est une réussite, donc là on a le soutien constant de nos collectivités territoriales. Moi je garde une impatience parce que je trouve que ça avance pas assez vite, mais ça c'est peut-être un défaut de mes qualités. Mais il faut un peu bousculer le système pour que ça avance plus vite. Moi j'ai pas le temps, j'ai plus le temps, voilà, donc... Réfléchir à ce qu'on peut faire en 6 mois, faut pas le faire en 2 ans, quoi. Donc, faut que ça avance.
Ça, c'est pour passer le message, ça s'appelle.
et effectivement, on est dans un environnement, on va dire, global assez favorable pour les raisons que vous venez de dire. C'est autonomisation de la France sur la production de médicaments, maîtrise de la production des médicaments, export, développement économique, sur une thématique qui reste quand même un problème majeur. C'est faire en sorte de participer à l'amélioration du traitement des cancers.
Qu'est-ce qui rend heureux au quotidien? C'est ma dernière question. Gilles Karcher.
Oh, la question est difficile. C'est de voir que ça avance. Voilà. C'est quand j'ai ma to-do list du matin, c'est de voir que j'ai réussi à en enlever un peu et que le soir, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps et que je peux retrouver ma cellule familiale, le cœur en paix.
Merci Gilles d'avoir pris le temps de partager.